Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Mounier qui vous informe, première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Peut-on se faire vacciner si on n'est qu'à contact? Les tests positifs se multiplient et les questions qui vont avec aussi Europe 1 vous répondent dès le début du journal.
Diviser ou rassembler, Christiane Taubira a donc officialiser sa candidature à la présidentielle au risque de créer un embouteillage à gauche.
On parlera de sport et notamment du mondial de handball. Et pour l'instant, c'est un sans faute pour les Bleus.
Dans la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. Mélanie Gomez et Julia Vignali se demanderont si on peut se cultiver sans se ruiner. Et puis à 6h23, Mathieu Noël plaidera pour une victoire de Jean-Luc Mélenchon en avril prochain. Mais tout d'abord, bien sûr, la tendance météo avec vous, chère Valérie Darmon. Bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Changement de configuration, temps humide le long de la Manche et puis sur un tout petit tiers nord au fil de la journée jusque sur le bassin parisien. Nuageux donc sur toute la moitié nord et soleil dans le sud et toujours du froid.
Détail météo dans 7 minutes. Alors, on nous parle beaucoup de la vaccination avant l'arrivée du pass vaccinal dans les prochaines heures, mais y sommes-nous tous éligibles à n'importe quel moment?
Oui, vous êtes sans doute retrouvé dans cette situation ces dernières semaines avec la multiplication des cas. Vous êtes cas contact, mais vous avez un rendez-vous pour une vaccination dans les jours suivants. Est-ce qu'il est dangereux dans ce cas de se faire vacciner? Et si on est asymptomatique, comment ça se passe? Eh bien, on fait le point avec Yasmina Katou.
Premier cas de figure, vous apprenez à être cas contact. Or, vous avez rendez-vous le lendemain ou deux jours après pour vous faire vacciner. Vous devez attendre 7 jours après votre dernier contact avec la personne positive avant de recevoir votre dose. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est le délai maximum d'incubation pour déclarer ou non des symptômes. Deuxième exemple, vous êtes cas contact et votre test révèle que vous êtes positif. Cependant, vous ne développez aucun symptôme, mais même asymptomatique, votre système immunitaire est stimulé. Pas besoin de vaccin, une infection équivaut à une dose. Enfin, dernier cas, vous vous faites vacciner et attraper le Covid les jours suivants. Pas d'inquiétude, dit Emmanuel Piednoir, infectiologue.
Il n'y a pas de risque particulier à faire un Covid dans les jours qui suivent une vaccination. Par contre, quand la Covid est concomitante à une vaccination, on considère que ça correspond à une seule et même stimulation immunitaire quand il y a moins de 15 jours entre la Covid et la vaccination.
Comprenez donc que si c'était votre deuxième dose, le fait d'avoir eu le Covid et un vaccin dans un délai de 15 jours vous oblige tout de même à recevoir une dose de rappel.
Les explications de Yasmina Katou pour Europe 1 et le nombre de contaminations, il augmente 6% en une semaine. En revanche, le nombre de personnes hospitalisées en soins critiques baisse pour le troisième jour de suite.
Le pass vaccinal arrive dans les prochaines heures.
Oui, le texte a été adopté par le Sénat, même si ce dernier a maintenu certains points de désaccord avec l'Assemblée nationale. Un futur pass vaccinal qui perd en popularité. On apprend dans les colonnes du JDD ce matin que 58% des Français y sont favorables. 5 points de perdu par rapport à la dernière enquête sur le sujet. Moins de convaincus et paradoxalement, moins de monde aussi dans la rue pour s'y opposer. Hier, 54 000 personnes ont défilé contre ce pass, 2 fois moins que la semaine passée.
La santé qui s'invite dans la campagne.
Oui, pas pour parler crise sanitaire, mais bien hôpital. Des représentants du secteur sanitaire écrivent une lettre ouverte sommant les candidats à l'élection de proposer de vraies réformes du système de soins. 55 organisations réclament un grand débat télévisé sur le sujet.
La politique et la gauche qui comptent une candidate de plus.
Oui, c'est officiel. Christiane Taubira s'est lancée hier à Lyon. Elle dit vouloir se soumettre aux résultats de la primaire populaire. Seule chance d'union à gauche. On le sait, hein, ses concurrents immédiats n'en veulent pas. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont déjà dit non. Christiane Taubira, qui était l'invitée du 20h de France 2 hier soir, elle ne se voit pas comme une simple candidate supplémentaire.
Moi, je dis très clairement que je reconnais les règles de la primaire populaire et que je reconnais d'avance le résultat de cette primaire populaire. C'est-à-dire que puisque l'Union est reconnue comme indispensable, qu'elle n'a pas été accomplie à l'échelle des candidats, qu'elle ne l'a pas été non plus à l'échelle des partis politiques, le dernier espace démocratique qui rend possible cette union, c'est la primaire populaire. Donc pour ce qui me concerne, je suis dans une cohérence du début à la fin.
Christiane Taubira et réaction d'Anne Hidalgo, maire de Paris ce matin, candidate PS à la présidentielle, c'est projet contre projet.
Valérie Pécresse, de son côté, était en Grèce pour parler immigration.
Oui, la candidate veut sortir d'une campagne autour de la seule crise sanitaire et mise à nouveau sur le régalien. Alexandre Chauveau, sur la question de l'immigration, la candidate LR veut se démarquer de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais aussi du chef de l'État, Emmanuel Macron.
Oui, et Valérie Pécresse aime à le répéter. Elle se présente comme la candidate des solutions, capable de traiter tous les sujets sans tabou mais sans outrance. Elle souhaite ainsi appliquer la politique migratoire grecque à tous les pays frontaliers de l'espace Schengen. Une politique humaine mais ferme, dit-elle, symbolisée par le centre de contrôle de migrants de l'île de Samos, visité hier. Des préfabriqués alignés à l'intérieur desquels se trouve une chambre partagée, une douche et une petite cuisine, mais cernés à l'extérieur par des barbelés pour mieux contrôler les entrées et les sorties, traiter les demandes d'asile à l'intérieur du camp et faciliter les expulsions le cas échéant. La candidate veut en finir avec les camps de migrants à ciel ouvert, aux conditions d'hygiène souvent déplorables, mais cet accueil a un coût, 43 millions d'euros pour le centre fermé de Samos, entièrement financé par l'Union européenne. Valérie Pécresse compte donc, si elle est élue, soutenir ce type d'initiative pour filtrer du mieux possible les entrées en Europe et réduire de manière conséquente le flux de clandestins. Politiquement, ce déplacement est aussi évidemment un moyen de ne rien céder à ses opposants sur l'immigration, un thème clé pour l'électorat de droite.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, et je précise que Valérie Pécresse est l'invitée demain matin, 8h15-9h sur Europe 1 dans la matinale. L'actualité de la nuit au Texas, une prise d'otage dans une synagogue est à présent terminée. Tous les otages ont été libérés sains et saufs. Selon la chaîne ABC, il y avait 4 otages dont un rabbin. Le preneur d'otages est mort, on vient de l'apprendre.
On commence à les voir dans les grandes villes française, les voitures chinoises électriques débarquent en France.
Oui, elles sont moins chères, elles sont plus autonomes et les constructeurs sont davantage réactifs face à la pénurie de puces électroniques qui affaiblit le marché français. Explication Aurélien Fleureau.
Évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour arriver sur un marché. Crise sanitaire, pénurie, immatriculation historiquement basse depuis 2 ans, mais le virage inéluctable vers la voiture électrique et les grandes ambitions des constructeurs chinois ont contribué à l'arrivée de CRS, IOS, Lynk & Co et de MG, le plus ancien de ces nouveaux et le plus connu puisque c'est le géant chinois SAIC Motors qui a racheté et relancé la marque britannique. Présente en France depuis mai 2020 avec un réseau de 120 distributeurs, elle a vendu près de 5000 voitures l'an dernier. Des débuts encourageants expliqués par Julien Robert, le directeur des ventes.
On a un avantage, c'est qu'on a une gamme à la fois très simple, on n'a pas d'option à part le choix de la couleur du véhicule, et on a la même gamme partout en Europe, ce qui fait qu'on a des capacités à produire les véhicules et à les acheminer. Et ça nous permet, en ayant des véhicules électriques et des véhicules plug-in hybrides, de sortir un peu du lot parce qu'on a un réseau et parce que nos clients ils peuvent aller chez leur concessionnaire, voir la voiture et la commander directement.
Et la concurrence va s'accentuer. Un autre géant chinois, Great Wall Motors, arrivera cette année, tout comme VinFast, un constructeur vietnamien.
Les précisions d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Les sports à présent, beau succès des Bleus du hand hier soir.
Oui, c'est le mondial en ce moment, 36-23 contre l'Ukraine, et voici un deuxième succès qui place les Français en tête de leur groupe. C'est bon pour la confiance avant d'affronter la Serbie, nous dit le sélectionneur Guillaume Gilles.
Oui, c'est une partie très sérieuse contre un adversaire à qui on a su faire rendre les armes et à qui on a posé beaucoup de problèmes. Donc ça reste un match qui est abouti, un match qui nous permet aussi de continuer d'avancer dans ce tour préliminaire avec plein de satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup de rotation et tous les joueurs qu'on a mis sur le terrain ont amené quelque chose de très positif à cette performance collective. C'était une très bonne préparation en vue de cette petite finale de groupe.
Le sélectionneur de l'équipe de France de hand, Guillaume Gilles.
Et puis en football Ligue 1, Lénaïck Monnier est bien triste ce matin. Mais ce n'est pas une surprise. Le PSG l'a emporté face à Brest.
Oui, un succès logique 2-0 avec des buts de Mbappé et de Kerrer. Mais Paris retrouve le goût de la victoire, ce qui vaut mieux à un mois du match PSG-Real en Ligue des Champions. Et puis, côté tennis, il faudra attendre encore un petit peu pour savoir si Novak Djokovic peut jouer l'Open d'Australie demain. La Cour fédérale australienne décide dans la journée si elle l'expulse ou pas. Le tournoi commence demain.
Et c'était le journal de Lénaïck Monnier. À tout à l'heure,
Lénaïck.
Merci. Alors, le temps de votre dimanche, Valérie Darmon. On perd le soleil au nord.
Et oui, et je salue Sophie, Antoine, Julie, Olivier, nos fidèles auditeurs d'Europe 1, qui nous saluent déjà et qui, pour certains d'entre eux, sont déjà dans les brouillards givrants ce matin du côté de Reims pour Flavienne ou encore sous la neige en Isère. Et puis des brouillards également dans le sud-ouest, en terre bretonne, au sud de la région parisienne, en Champagne. Beaucoup de brume sur toute la moitié nord. Du nord de la Bretagne aux côtes de la Manche, quelques gouttes qui tombent et cette faible perturbation qui va gagner la région parisienne à la mi-journée, avec des flocons qui tombent déjà sur les Ardennes. On est donc dans un changement de configuration pour la moitié nord.
Dites donc, madame, la grisaille, elle a des chances de disparaître, de se morceler, de faire...
Eh bien, pas du tout, monsieur. Pas bon. du tout. Le ciel qui va rester gris toute la journée. De l'estuaire de la Gironde au plateau Lorrain, avec quelques gouttes possibles. La grisaille qui est tenace dans le Val-de-Saône, avec des éclaircies qui parviennent à se développer en région lyonnaise. Pour trouver le soleil, il faut descendre au sud. Je vous donne la délimitation. Oui. Pays basque, massif central, relief de l'Est. Alors en montagne, c'est le bonheur. Ouais. Le soleil qui reste aussi généreux qu'hier. Et puis dans la soirée, on a le Mistral et la Tramontagne qui soufflent chacun dans leur domaine un petit peu.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure.